Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Le réseau de la santé, bien sûr, avec ce plan qu'on est en train d'élaborer, on nous dit non, c'est pas encore en opération, mais on souhaite pas le faire, le bilan s'améliore, mais quand même, on sait que le réseau est sous haute tension. Et quand on parle de faire passer des soins de qualité A+ à B, ça a de quoi inquiéter les gens. Est-ce qu'on a raison, donc, de se préoccuper, d'être inquiet pour le réseau de la santé? Luc?
Ben oui, je pense qu'on a raison d'être inquiet. C'est sûr qu'il y a des bonnes intuitions là-dedans, mais il y a plusieurs médecins qui ont réagi. D'abord, je vais te décrire de quoi il s'agit. Là. C'est un rapport d'experts qui propose de changer la gestion des hôpitaux pour la rendre moins contraignante, plus performante, au moins pendant 6 semaines. Ils ont proposé 4 éléments de nuance ou de changement. Donc, ne plus permettre tous les efforts pour empêcher une intrusion du virus à l'hôpital. Donc, par exemple, si quelqu'un est asymptomatique, très peu de chances de le donner à autrui, très bien protégé, masque N95, tout ça, ben on le laisse travailler. Ensuite, donc, on accepte un certain risque. Freiner les entrées des patients, puis accélérer les sorties de l'hôpital, ça, c'est un gros point. Là. Donc, on accepterait moins d'entrées, puis on accélérerait les sorties. Les familles appelées à contribuer, puis redéfinir la qualité minimal des soins. Donc, si on est face à un patient qui a des symptômes faibles, ben on n'applique pas la batterie de tests et de diagnostics la plus poussée. Alors, plusieurs réactions des médecins qui disent « mais on fait déjà ça ». Parce que les exemples qui étaient donnés par deux des intervenants, c'était de dire, bon, je donne un exemple, si la personne, elle est diagnostiquée guérie, mais il y a des petits risques, ben, on la renvoie chez elle, puis on la rappelle pour faire des tests. Alors, il y a des médecins qui disent, mais regarde, c'est exactement ce qu'on fait déjà, là. Je ne vois pas comment on pourrait en faire plus. Il y a peut-être des domaines entiers qu'on pourrait changer. Comme par exemple, au début de la pandémie, rappelez-vous, il y avait toute une discussion sur les personnes qui devaient être en CHSLD, presque 600, mais on ne leur trouvait pas de place, alors on les gardait à l'hôpital. Alors, est-ce que là, il y a une marge de manœuvre? En même temps, s'il n'y a pas de place dans les CHSLD, t'en fais quoi? Tu les mets où? La question n'est pas résolue. Elle n'était pas résolue avant la pandémie, elle n'est pas plus résolue maintenant. Il y a aussi le fait qu'il faut se rappeler que dans le système de santé, on a un système de santé ambulatoire avec très peu de lits d'hôpitaux et on gère déjà comme ça depuis des années. Et le système de santé est poursuivi tous les jours, toutes les semaines par des avocats qui défendent des personnes qui jugent qu'elles ont été renvoyées trop tôt à la maison ou n'ont pas été acceptées ou ont été laissées à l'urgence et que ça a entraîné des problèmes de santé importants et que ces personnes-là ont soit une gravité de leurs problèmes de santé, ça s'est aggravé ou alors des décès. Alors, de dire ça serait une culture à changer dans ce sens-là, moi, j'ai de la difficulté parce que je vois que c'est déjà beaucoup comme ça et peut-être trop comme ça.
Nathalie.
L'image qui me vient en tête pour traduire la crise que traverse le réseau de la santé, c'est la maison brûle et on tente de sauver les meubles en ce moment. Pour prendre deux données là, qui vont nous permettre effectivement de comprendre la tension que vit actuellement le réseau. Sommet de la première vague lors de la première vague, sommet d'hospitalisation lors de la première vague, on en était à 1866. La docteure Lucie O'Patterney, tantôt te dit, Paul, à ton micro, on va atteindre aujourd'hui 3425 hospitalisations. On a le même réseau que la première vague, puis on est passé de 1866 à 3425 hospitalisations. Vous comprendrez que ça prenait un plan, un changement de paradigme, temporaire, nous disent les principaux intéressés. Mais moi, ce que je crains, Paul, c'est que, effectivement, c'est que ce changement de paradigme nous conduise à redéfinir le réseau sur des bases qui hypothéqueraient effectivement la qualité des soins. Là, on se défend en nous disant il ne s'agit pas de diminuer la qualité des soins. Passer de qualité A+ à B, B. Ça veut pas dire qu'on diminue la qualité, ça veut dire qu'on diminue l'intensité. Ça, c'est concrètement, c'est effectivement, tu rentres à l'hôpital, puis on n'a pas, en fait, mettons pour une insuffisance cardiaque, comme le disait tantôt le docteur O'Patterney, puis elle dit, ben plutôt que d'élaborer là, toute ta médication avec toi à l'hôpital, puis de stabiliser avant de partir, ben on va t'envoyer à la maison, puis on s'assurera de stabiliser ta médication lorsque tu auras quitté la maison. J'apprécie et je trouve extraordinaire la transparence dont font preuve le ministre et la sous-ministre Lucie O'Patterney. Par contre, il faudrait s'assurer que profiter de l'opportunité qu'offre la pandémie pour redonner de l'oxygène au réseau. Et je pense que la priorité numéro un à laquelle on devra s'attaquer, c'est les effectifs médicaux. Il faut que le réseau de la santé, faut que ça devienne motivant pour les employés d'aller travailler dans le réseau de la santé. Que ce soit en CHSLD, que ce soit à l'hôpital ou ailleurs dans le réseau. Moi, je pense que c'est la priorité des priorités à laquelle il faut que les autorités s'attaquent.
Il faut rappeler que le Canada est un des le Canada au complet, hein, pas juste le Québec, le Canada est un des pays qui a le plus petit nombre de lits au monde en santé puis en soins intensifs avec Israël puis l'Irlande. C'est deux fois moins de lits que les hôpitaux français, c'est trois fois moins de lits que les hôpitaux japonais. Les États-Unis aussi ont à peu près la même culture là, d'un système de santé ambulatoire où l'idée, c'est de te renvoyer chez vous le plus rapidement possible.
Ah, oh, mais attends une minute, dans le cas des États-Unis, le privé, il y a beaucoup d'Américains qui n'ont pas d'assurance, tu le sais, Luc.
Ouais, 30
millions. Le privé est beaucoup plus présent. Mais prenons un exemple très concret. Il semblerait que là, on fait une centaine d'opérations par semaine et il y a des gens qui sont dirigés vers le privé plutôt que vers le public. Et donc, il y a une espèce de pont qui est assurant entre le public et le privé. Est-ce que ça pourrait devenir une façon permanente de procéder? Parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression que avoir un système de santé public, universel, gratuit pour tout le monde, tu sais, le système là qui est mon Dieu, c'est qui est presque parfait. On a tenté depuis les années 60 d'avoir un système comme celui-là, mais ça ne fonctionne pas. Il y a eu plusieurs échecs qu'on a tenté de corriger au fil des années. Alors, peut-être qu'on aura des réponses aujourd'hui avec la commissaire à la santé qui va déposer son rapport, mais j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Redonner de l'oxygène au réseau pour lui permettre de rebondir. En fait, le défi, c'est d'éviter que le réseau soit plongé encore longtemps sous le respirateur artificiel. On ne peut plus, en fait, on a frappé le mur depuis un certain temps et la pandémie est venue exacerber les problèmes que nous avions.
Mais je suis un peu d'accord avec toi, Nathalie, c'est le temps de se questionner, là, mais dans le questionnement, je pense pas qu'on peut tout de suite arriver à la conclusion que le système public a failli, parce qu'il y a deux grands écueils. Premièrement, je le disais tantôt, le nombre de lits, on a fait le choix d'avoir un nombre de lits très faible, très bas. Il y a d'autres systèmes publics à travers le monde qui ont beaucoup plus de lits que nous. Ça, c'est la première chose. Mais on donne des soins d'une qualité exceptionnelle, surtout pour les maladies graves, avec des appareils, une technologie, une pharmacologie extraordinairement développée. Mais on a choisi ça. On a choisi d'aller dans le très intense. Mais sauf que si, par exemple, tu te présentes pour un problème d'appendicite, tu risques de te faire renvoyer chez vous vite, là, puis en douleur en plus. Alors, et pas te faire accepter parfois. Et donc, ça, on, avant de dire, là, on a un problème de coût, on a un problème de personnel tellement intense qu'il faut aller vers une réduction de la qualité des soins, je pense qu'il faut tout mettre sur la table et se comparer avec les meilleurs.
C'est parce qu'habituellement, quand tu regardes ça, là, c'est jamais un problème de qualité de soins, c'est un problème d'accès. Si tu es assez malade pour arriver à l'hôpital puis te dire, ben là, il faut qu'on te traite, ça va être bien fait, puis les gens sont des professionnels, le problème, c'est l'accès. Puis on le voit, accès aux médecins de famille, accès à l'urgence les fins de semaine, c'est toujours l'accès. Les cliniques privées, actuellement, avec qui ils font le pont, ce sont des médecins du public qui opèrent.
Ouais.
C'est que comme il y a du personnel dans ces cliniques, puis que tu peux pas les amener à l'hôpital, ben tu dis aux patients, tu vas aller te faire opérer là, ça te coûte pas un sou. C'est comme une prolongation du réseau public pendant une période. Mais tu sais, dans le fond, là, moi, j'écoutais tantôt le sous-ministre Dr. O'Patterney, là. Comment dirais-je? Je suis un peu... J'ai l'impression, là, qu'on va... C'est correct de servir d'une crise pour corriger des choses, là. Mais de me dire un matin que c'est pas déjà ça qui est en train de se faire, là, moi, les échos que j'ai, là, c'est pas mal ça qui est en train de se faire.
J'ajouterais quelque chose, ouais. Paul. Premièrement, c'est déjà ça qui est en train de se faire. Puis deuxièmement, je le disais tantôt, ils se font poursuivre parce qu'ils font déjà beaucoup ça. Bon, peut-être que, tu sais, moi, je pense qu'ils sont de très bonne foi, là, les gens qui ont proposé d'aller plus loin. Très bonne foi. Parce qu'il y a du délestage. Puis le délestage, mais c'est peut-être ça le critère. C'est-à-dire, là, en ce moment, on a du délestage. On veut aller plus loin dans cette logique-là. Quand il n'y aura plus de délestage, on arrête de le faire. Mais, c'est important de dire ça, parce que si on réinvente le système de santé, puis que pour des raisons de gestion puis d'argent, on décide de continuer dans cette voie-là, je pense qu'on n'est pas dans la bonne direction. Avant la pandémie, il y avait 90% des lits étaient pleins dans les hôpitaux et aux soins intensifs aussi, 90%. Ça, c'est pas des gens qui étaient asymptomatiques, là. C'est des gens qui étaient assez malades pour qu'on les mette aux soins intensifs et c'était plein à 90%. Il est peut-être là le problème.
On s'arrête là-dessus. Au retour, ça va être un pire de débat sur la participation des sportifs qu'on appelle intersexes, transgenres, aux Jeux olympiques. Est-ce que l'inclusion des minorités sexuelles doit primer à tout prix?
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
La commission Normando-Ferrandaise.
Un sujet qui est assez chaud habituellement, débat sur la participation de ce qu'on appelle des sportifs là, intersexes, transgenres, minorités sexuelles, aux Jeux olympiques. D'inclure les minorités, c'est une chose, mais est-ce que ça doit se faire, là, même dans un contexte de compétition sportive? Nathalie.
Bien, Paul, on vit dans un monde de plus en plus compliqué. Moi, je n'étais pas du tout sensibilisée à ce débat qui fait rage dans le milieu sportif. Et là, j'ai appris des nouveaux mots, là. Un athlète peut être intersexe, transgenre, hyper-androgène. Tu comprends-tu que ça a pris? J'ai sorti mon vieux Larousse hier soir, là, quand je me préparais. Je me suis dit, mon Dieu, de quoi on parle lorsqu'on parle de ça? En fait, la question est plus facile à répondre, c'est-à-dire à poser qu'à répondre. Et l'exemple que je donnerais pour le bénéfice de nos auditeurs, c'est prenons un Ben Johnson, ex-sprinteur, qui a connu certains raté, mais prenons Ben Johnson, du haut de ses 5 pieds 8, 165 livres, qui décide de devenir une femme et de compétitionner comme une femme. Fait qu'on imagine la scène, il se retrouve sur la piste d'athlétisme, puis les femmes le regardent en disant « Attends une minute, là, lui, il va venir compétitionner contre nous, le gars qui était, en fait, la femme qui est devenue un homme. » Alors, c'est de ça dont il s'agit, en fait, inclusion versus équité. Et ça fait rage actuellement, il y a plusieurs fédérations sportives qui reprochent au Comité olympique, international olympique, à la veille de l'ouverture des Jeux de Pékin, d'avoir émis des directives beaucoup trop larges. Donc, finalement, le débat demeure entier. Et j'avoue que moi-même, je suis un peu, circonspecte devant ce défi auquel ont relevé certaines fédérations. Mais ça n'a quand même pas empêché certains athlètes. En haltérophilie, par exemple, il y a une néo-zélandaise qui, elle, 43 ans, Laurel Hubbard, a été autorisée à participer aux Jeux olympiques. Elle était homme, elle est femme, elle va compétitionner contre des femmes en haltérophilie. Mais là, c'est la commotion chez les femmes qui pratiquent ce sport en disant, voyons donc, on va compétitionner contre un homme qui, clairement, est plus avantagé physiquement que par nous.
Mais je pense que la vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'ils sont circoncis?
La question qu'il
dit. Ben oui, c'est sûr. Moi, j'enverrais Mme Casabonne à Pékin.
Oui.
Est-ce que, à Pékin, il lui demande, est-ce que vous êtes vacciné? Non, puis toi, t'es-tu circoncis?
Paul, on peut-tu prendre 3 secondes, OK?
Oui,
écoute, 40 ans de carrière, là, dis-nous, est-ce que c'est la question la plus audacieuse?
Je comprenais pas trop le lien, pour être bien franc. C'est-à-dire que, puis là, je rappelle qu'on est en direct, là. Bon. Ah, tu sais, moi, je lui demande si elle est vaccinée, puis elle me dit, je vous le dis pas, puis vous, êtes-vous circoncis? Bon. Je sais que ça a fait flyer pas mal hier sur les réseaux sociaux, là.
Oui.
Puis, mais tu sais, tu dis... c'est quoi le lien?
C'est quoi le lien?
Quelle histoire. Mais c'est ce genre de manque de jugement-là, on va passer, en tout cas. Bon, parlons maintenant de la vraie question.
Oui.
Les transgenres, écoute, il y en a eu depuis 2004, le règlement permet aux transgenres de participer aux épreuves. C'est la première fois à Tokyo qu'il y avait des délégations qui en avaient. Là, madame Nathalie t'a parlé de madame Hubbard.
Hubbard, je ne sais pas comment on prononce.
Alors là, il y avait des critères. C'est que les critères, c'est que tu devais te déclarer femme depuis au moins 4 ans. Tu ne peux pas juste te déclarer femme là pour l'épreuve. Et puis, il faut que tu aies un taux de testostérone plus bas que celui des hommes, mais quand même, il reste 4 fois plus élevé que celui des femmes. Alors, ça a entraîné énormément de disputes, de chicanes. Et là, le CEO a dit, regarde, moi, je m'en mêle plus, c'est trop compliqué. C'est les fédérations sportives qui vont s'en occuper. Et là, les médecins ont dit, voyons donc, les fédérations sportives, ils vont avoir tous des critères différents. C'est impossible, on ne peut pas faire ça. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect inclusion. L'aspect inclusion est extrêmement important. Tu sais que de plus en plus de nombreux sont les personnes, nombreuses sont les personnes qui veulent changer de sexe, surtout chez les jeunes. N'ayant pas atteint la puberté, avant la puberté, là, à Londres, en Ontario, l'hôpital qui traite les demandes des changements de sexe, ils sont passés d'une dizaine de demandes dans les années 2000 à 2600 demandes aujourd'hui. Le centre de santé McGill, qui avait une attente de 2 semaines il y a quelques années, c'est 6 à 8 mois d'attente. Et maintenant, c'est drôle, 70% des demandes, ce sont des femmes qui veulent devenir des hommes, ce qui... contredit un peu le folklore du transgenre, où on avait l'impression que c'était tout le temps des hommes qui devenaient des femmes. Maintenant, c'est 70% l'inverse. Et donc, il y a une augmentation du nombre de personnes. Deuxième chose, c'est qu'il y a une vraie détresse. Le fait de ne pas avoir une identité sexuelle affirmée ou définie, plutôt, c'est une source d'inquiétude pour un enfant, pour un adolescent, importante. Là. À l'unité de pédopsychiatrie de l'hôpital de Montréal pour enfants, 20 à 30% des enfants qui sont donc traités pour des problèmes de santé mentale sont des enfants qui se questionnent sur leur genre. Puis l'automne dernier, c'était 1 patient sur 2. Donc, l'aspect inclusion est très important. Puis l'autre côté, tu l'as dit, Nathalie, c'est le côté sportif. C'est-à-dire que
oui.
Il y a plein de grands d'experts qui ont dit un instant, là, si tu as passé la puberté, si tu as passé la puberté, tu as une masse osseuse, une masse musculaire qui est incomparablement plus forte que celle d'une femme, il n'est pas question que tu ailles faire de l'haltérophilie. Alors, lui,
oui.
Disait, ça n'a aucun bon sens. Alors,
oui, mais sais-tu quoi, Luc? En fait, on incite même certains athlètes à prendre des médicaments pour diminuer leur taux de testostérone. Il y a un enjeu d'inclusion, un enjeu sportif, mais c'est devenu un enjeu politique. Dans mes lectures, j'ai découvert qu'une athlète sud-africaine, Caster Semenya, elle n'est ni homme ni femme, elle se définit comme une athlète hyper androgène. Et écoutez, elle a même été soutenue par l'ONU dans sa cause. Elle s'est adressée à la Cour européenne des droits de l'homme pour justement être reconnue comme une athlète femme. Mm-hmm. Mais c'est pas... Comprends-tu? On la voit physiquement, là, tu la regardes, elle ressemble à un homme. Alors, c'est des enjeux extrêmement complexes parce qu'on parle beaucoup du variant Omicron. On est à quelques jours, quelques semaines de l'ouverture des Jeux de Pékin. Mais ce débat-là, honnêtement, je sais pas, Luc, comment on va arriver à le régler, parce que tu le disais, l'inclusion, c'est important, oui, mais comment t'assures de l'équité sur le terrain, que ce soit en haltérophilie, en athlétisme?
Moi, Nathalie, ma réponse, là, c'est non. On n'accepte pas les transgenres et les transsexuels à moins de critères très, 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 très définis. Par exemple, une personne
là,
qui a changé de sexe...
C'est discriminatoire.
Attends une minute, je vais finir. Une personne qui a changé de sexe avant la puberté, ça me semble être une nécessité. Là. Si ta masse musculaire et ta masse osseuse a été développée pendant la puberté, tu bénéficies d'un avantage. Je vais te dire pourquoi. Là où il faut... faire preuve d'humanité, d'intelligence émotionnelle, c'est dans la vie de tous les jours. Il faut reconnaître le problème de l'inclusion. C'est un vrai problème, c'est une vraie détresse pour certains.
Si on est d'accord avec ça.
Pas pour tout le monde, Mais ceux pour qui c'en est un, c'est un problème qui mène parfois au suicide. Alors, il faut, dans la vie de tous les jours, comprendre tout ça, là. LGBTQ+, puis Two-Spirit, puis maintenant, c'est devenu... c'est plus juste gay ou lesbienne, là. Aussi, là-dedans, maintenant, il y a un nouveau phénomène qui est de dire... Il y a des personnes qui ont changé de sexe et qui veulent revenir au sexe qu'ils avaient parce que leur vrai problème, c'était qu'ils se sentaient rejetés, d'abord rejetés par eux-mêmes, ne se comprenaient pas eux-mêmes, rejetés par les autres. Ils se sont dit, il y a un problème, il faut que je le règle, change de sexe. Et finalement, se rendre compte que finalement, ils étaient juste gays ou lesbiennes et ils veulent revenir au premier sexe. Donc, c'est complexe. Et tout ça, c'est un problème qui entraîne des problèmes graves, je l'ai dit tantôt. Il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir, ce problème-là, dans la vie de tous les jours. Là. À notre table de cuisine, il faut l'accueillir. Bon,
ben oui, on est d'accord avec
dit,
ça, Luc.
Ceci
mais...
étant dit, en sport, le 50 km ski de fond se gagne par des dixièmes de seconde. Des dixièmes de seconde. Le 50 km. 50 km ski de fond, là. Vas-y, toi, avec ton chum, faire 50 km. Tu me diras s'il n'y a pas une occasion où tu aurais pu gagner quelques dixièmes de seconde. Il va peut-être arriver avant toi une heure avant, tu sais. Je veux dire, c'est énorme, l'effort sportif. En cyclisme, là, tu donnes un milli avantage à une personne, il gagne. Les cyclistes, ils pèsent moins, les grimpeurs surtout, pèsent moins de 130 livres. Il y a déjà une exception physique en sport. Si cette exception physique-là, tu la mesures pas, parce que tu l'as parlé de Mme Semenya, elle avait une exception physique, elle est née biologiquement femme, mais elle a les caractéristiques d'un homme. Elle, il n'y a aucun problème. Mais si tu ne mesures pas, il y a des cas d'exception. Mais en règle générale, si tu ne mesures pas l'exception physique, cette personne-là gagne systématiquement. Alors.
Oui, je conclue. C'est terminé. Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit à propos de Mme Casabonne hier, pas juste pour la circoncision, là, mais elle disait qu'elle avait suivi des cours de soins infirmiers.
Oui, mais une formation, absolument. Tu l'as dit, d'ailleurs.
Oui, mais ça a l'air qu'elle n'a pas fini la première session. C'est ce qu'on dit. Oui, je suis pas sûr qu'elle a complété ses études sur la question. T'sais, c'est toujours facile de dire, j'ai étudié en Sciences Po, la deuxième, as-tu fini le cours? T'sais, c'est comme... merci à tous les deux. On vous retrouve demain.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.